Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous écoutez Transistor, il est 21h07 et c'est le 54e épisode du journal radiophonique Amplifié qui revient cette année avec une toute nouvelle équipe et aussi des anciens toujours fidèles au poste sans mauvais jeu de mots. Et donc on va commencer avec une actu mixée, égalisée, montée et bien sûr amplifiée. Au programme aujourd'hui, on commencera par le journal avec du national et de l'international. Il y aura des brèves sur Italie 2, Trump, les Kurdes, le Brexit, l'attaque en Allemagne. On verra tout ça après. Il y aura ensuite la revue de presse de Marie, un nouveau édito politique avec Adèle. Il y a toujours la notion pourrie d'Arthur, une nouvelle chronique italienne. Il y aura aussi des sciences, de l'écologie et même du sport. Bref, on vous laisse découvrir tout ça dans un moment. Et on commence tout de suite avec le journal et les brèves.
On commence donc par le journal national avec un peu de la situation à Italie 2, le blocage d'Italie 2, je me semble.
Oui, excusez-moi. Des militants écologistes ont occupé le centre commercial d'Italie 2 dans le 13e arrondissement de Paris, Cocorico, durant un samedi entier pour dénoncer la surconsommation qui serait responsable de la catastrophe écologique actuelle. Après le scandale de Lubrizol, un millier de personnes avaient décidé d'occuper de façon non violente le centre commercial afin d'éveiller les esprits à l'urgence écologiste. Ces mêmes personnes d'Extinction Rébellion ont plus tard occupé la place du Châtelet mardi dans le même esprit. Quelques voix parmi eux commencent à s'élever en raison d'une peur de l'impuissance de ce type de mobilisation et de cette démarche non violente, surtout face aux réponses particulièrement violentes de la police ces derniers jours.
On passe maintenant à un point sur les écologistes avec Rémi.
Effectivement, un vent d'espoir d'union des gauches soufflait à Marseille, Marie, depuis l'annonce d'un rassemblement intitulé « Mouvement sans précédent » entre plusieurs dizaines de collectifs citoyens et de partis, parmi lesquels le Parti Socialiste, le Parti Communiste et la France Insoumise. Samedi dernier, Europe Écologie Les Verts a mis un coup d'arrêt à ce surprenant Mistral en refusant le principe d'une liste d'union lors d'un vote ayant réuni la masse impressionnante de 74 militants. Sébastien Barbar, j'ai mal noté le nom, c'est une catastrophe. Un homme de 46 ans, tout du moins assistant parlementaire de Michel Rivasi, c'est dire sa célébrité sur l'échiquier politique français, a également été choisi comme tête de liste, annonçant, je cite, « rester persuadé qu'une liste écologiste est le meilleur moyen de ramener les déçus de la politique au vote ». Cette décision éclaire ce qui sera sans doute la stratégie d'un parti renforcé par les européennes et décidé à s'inspirer d'un modèle allemand, d'un écologisme centriste. L'union fait la force et c'est précisément pourquoi la gauche semble vouée à rester si faible. Municipal toujours avec la visite d'Emmanuel Macron à Lyon, où Gérard Collomb et son ex-dauphin David Kimmelfeld briguaient tous deux l'investiture La République En Marche. Avant que la commission d'investiture ne se prononce, le président de la République aurait tranché aujourd'hui lors d'un déjeuner, le regagnant étant le maire sortant, cumulard multirécidiviste et ex-ministre Gérard Collomb. Tandis que le camp Collomb reste relativement silencieux, les soutiens de David Kimmelfeld dénoncent un fait du prince et des pratiques bien loin du nouveau monde censé être porté par le parti présidentiel.
Un retour pour finir sur l'attentat à la préfecture de police de Paris.
Oui, en effet, 4 fonctionnaires de la police de la préfecture de Paris ont été tués à l'arme blanche le 3 octobre aux alentours de 13h. Emmanuel Macron a appelé mardi midi la nation tout entière à se mobiliser contre l'hydre islamiste, je cite. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a remis la Légion d'honneur à titre posthume à Damien Ernest, Anthony Lancelot, Brice Le Mescam et Aurélia Trifiro. Suite à cet attentat, Christophe Castaner est au cœur de 2 controverses et a été auditionné pour ses propos plucatifs où il assurait d'un côté qu'il n'y avait, je cite, aucun signe qui aurait permis d'éviter l'attaque, puis qu'il était possible de révéler au Sénat des documents confidentiels sur l'assaillant. L'opposition, à droite comme à gauche, demande sa démission.
On passe maintenant à l'international et on commence avec un point sur la situation chaotique, je crois, en Équateur.
Oui, en effet, la situation s'enflamme en Équateur. Faisant suite à une semaine de manifestations et répression policière à Quito, le président Lénine Moreno a décrété mardi dernier un couvre-feu autour des lieux de pouvoir, puis a quitté la capitale avec son gouvernement dans la soirée. À l'origine du mouvement, une mobilisation massive contre la hausse des prix du carburant, la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les petits producteurs et les communautés indigènes équatoriennes qui ont porté le mouvement, et se plaignent depuis déjà plusieurs mois de la politique d'austérité orchestrée par un président qui avait pourtant été élu en 2017 sur un programme socialiste, dans la lignée de son prédécesseur Rafael Correa. Le bilan provisoire de ces manifestations est de 120 blessés et un mort.
Un point maintenant sur la situation en Syrie. Le 7 octobre, la décision de Trump avait ébranlé la situation géopolitique de la Syrie. Le président américain avait annoncé le retrait des troupes américaines de la frontière turque, un retrait qui laisserait les Kurdes seuls face à une Turquie qui les considérait comme terroristes. Ce matin même, le président turc Erdogan a annoncé le lancement d'une offensive au nord-est de la Syrie, la zone du pays sous contrôle kurde. Le but, lutter main dans la main avec l'armée syrienne contre, je cite, les terroristes de l'État islamique et du PKK afin de créer une zone de sécurité à la frontière turque. D'un côté donc, Turquie et armée syrienne, et de l'autre, les forces démocratiques syriennes, une alliance de combattants kurdes et arabes, ainsi que la milice kurde des unités de protection du peuple soutenues par les Occidentaux. Face à une offensive qui a déjà fait plus de 40 morts et entraîné la fuite de 60 000 civils, les réponses ont très peu tardé. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence et France et Allemagne ont condamné une opération qui pourrait, selon eux, entraîner une résurgence de l'État islamique. Et Trump, lui, a menacé la Turquie de sanctions économiques en cas d'offensive injuste. Le sénateur Lindsey Graham, qui accuse Trump d'avoir abandonné les Kurdes, promet à Ankara des sanctions dévastatrices. On attend toujours les mesures de l'ONU pour connaître les suites de cette opération qui a provoqué pour l'instant un tollé général. Un point maintenant sur le Brexit, un feuilleton qui commence à s'éterniser.
En effet, les négociations entre le Royaume-Uni et l'Irlande évolueraient-elles vers un possible accord ? C'est ce qu'affirment Boris Johnson et Leo Varadkar, les premiers ministres britanniques et irlandais. L'enjeu serait de garantir le backstop, c'est-à-dire un accord qui éviterait le retour d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, condition sine qua non d'un accord pour les Irlandais. On se demande néanmoins, à 20 jours de la date théorique de mise en place du Brexit, s'il paraît même probable qu'un accord viable soit trouvé d'ici là.
Et pour finir, un point sur la situation aussi en Allemagne. Ce mardi, en Allemagne, un homme de 27 ans a tiré sur une synagogue et sur un restaurant turc à Halle, dans le land de Saxe-Anhalt, faisant 2 morts et 2 blessés graves. Le jeune Allemand, qui avait publié sur Internet un manifeste antisémite, s'est filmé en direct sur Twitch et affirme dans la vidéo que, je cite, « l'Holocauste n'a jamais existé et que les Juifs sont à l'origine de tous les problèmes ». Cet acte odieux, perpétré le jour de Yom Kippour et qualifié d'antisémite par le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer, fait écho à des événements récents qui reflètent l'inquiétante montée en puissance de l'extrême droite en Allemagne. En juillet dernier, le préfet Walter Lübcke, qui avait soutenu la politique d'accueil des migrants de Merkel, était assassiné par des membres d'un groupe d'extrême droite. Et aux législatives de septembre dernier, le parti d'extrême droite AfD renforçait sa position de premier parti d'opposition au Parlement. Au total, ce serait plus de 12 700 extrémistes de droite recensés par les autorités allemandes et qualifiés de dangereux. Un chiffre qui sonne comme un défi pour un pays qui fait désormais de la lutte contre l'antisémitisme et l'extrême droite une de ses priorités.
Merci à tous les quatre pour ce journal et maintenant on passe à la revue de presse qui revient avec Marie.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Et on la commence avec du changement, je crois, Marie.
Et oui, parce que c'est le premier JRA de cette année, et si l'émission est placée sous le signe du changement, avec de nouvelles voix et de toutes nouvelles chroniques, eh bien dans la presse du jour aussi, on parle de changement, parce que rappelez-vous, l'acte 2 du quinquennat, c'est maintenant. Et c'est d'abord sur un changement qui dérange et qui nous concerne tous que se concentrent les journaux de ce jeudi, le changement climatique. Dans sa chronique pour l'Obs d'abord, Daniel Cohen analyse le phénomène Greta Thunberg. Nous sommes, dit-il, dans un moment Game of Thrones. La menace d'un dérèglement général est oppressante, mais pourtant, rien ne semble détourner les humains de leur petite guéguerre politique. et le chroniqueur de comparer les dynamiques actuelles à celles de mai 68. Hier, il fallait jouir sans entrave, aujourd'hui, on réclame la sobriété. Il y a quelques décennies, les jeunes réclamaient le droit d'être adultes et autonomes. De nos jours, ils déplorent l'incapacité de leurs aînés à l'être.
Et c'est un constat peu enthousiasmant.
Alors c'est vrai, mais heureusement que Libé est là pour nous offrir des perspectives plus réjouissantes, des petites bouffées d'espoir à savourer entre deux bouffées de CO2. À Paris, nous dit-on, la municipalité souhaite mettre en place d'abord les Sea Bubbles, ces taxis flottants sur la Seine, et ensuite des catamarans bus, encore à l'étude, qui suivraient sur l'eau un axe parallèle à celui du RERC.
Il y en a donc certains qui seraient prêts à insuffler du changement alors.
Exactement. Vous l'aurez compris, les changements, il y a ceux qui les réclament et ceux qui mettent les mains dans le cambouis pour en être les acteurs. Ces acteurs, ce sont d'abord ces hommes et femmes qui font la couverture de l'Obs cette semaine. Il est agriculteur et accueille dans sa ferme des gamins chahutés par la vie. Il s'appelle Olivier et recueille les témoignages de mineurs isolés pour les aider à rebondir. Elle a 65 ans et décide de devenir lectrice pour aveugles. Mais les figures de changement, ce sont aussi des membres d'Extinction Rébellion qui, nous rappelle Libération toujours, se mobilisent dans plusieurs villes de France. Alors certes, avance Daniel Bois dans sa tribune au Monde, il ne s'agit pas d'entrer en politique, mais c'est parce que le but des activistes est tout autre, garder en alerte la société. Prudence toutefois pour le chroniqueur, ce refus assumé d'entrer dans une logique de négociation conduit aussi le mouvement à l'absence de résultats concrets.
Et les résultats concrets de ces petits changements aux grands impacts, c'est pas ce que saluent les journaux du jour ?
Si, le Figaro par exemple nous apprend que la directrice générale de l'UNESCO a nommé ambassadrice des peuples autochtones l'actrice mexicaine Yalitza Aparicio qui incarne une domestique dans le film Roma d'Alfonso Cuarón. Un pas de plus vers des politiques de protection des langues, de la biodiversité et du climat. Le Temps, lui, nous affirme que pour la première fois depuis octobre 1981, des femmes iraniennes pourront assister librement à un match de football. Reste à savoir s'il s'agit d'une concession ponctuelle ou d'une avancée majeure. Et dans Le Point, on mentionne l'invention d'un traitement capable de prévenir la propagation des incendies. Un gel ignifuge, respectueux de l'environnement et résistant aux intempéries. Sinon, vous trouverez aussi dans Libé la mention de ce député qui veut taxer les rillettes pour lutter contre la malbouffe.
Alors ces acteurs du changement, ce sont donc des femmes et des hommes, et c'est même parfois tout un peuple.
Oui, des milliers d'Haïtiens dont le Monde décrypte la mobilisation réclament la démission de leur président, Moïse, et descendent dans la rue pour lutter contre la vie chère et la corruption. Le Figaro, ensuite, nous parle de ces Irakiens qui se disent prêts à défier les forces de l'ordre jusqu'à la chute du régime, et ce malgré les 100 manifestants tués en une semaine. Dans un autre registre, un journaliste du Monde fait mention de ce qui est pour lui un signe de changement social majeur. Une société néerlandaise avait choisi l'image d'un homme frappant une femme pour faire la pub de son hamburger en Belgique. Il a été contraint de le retirer après une mobilisation massive de la société.
Alors, tu nous as parlé du changement social, du changement politique, et qu'est-ce qu'il en est du changement de point de vue alors ?
Eh bien, c'est justement ce à quoi nous invite l'article du Point, consacré au dernier livre de Romain Bertrand, Une autre histoire des grandes découvertes. L'auteur réfute le point de vue européano-centré, selon lequel les Européens auraient été les premiers à débarquer sur des territoires inconnus. Le Chinois Zheng He avait parcouru le monde bien avant nous, et l'Australie était loin d'être la terre vierge que les Européens ont cru découvrir en arrivant.
Alors, dans ces cas-là, le changement de point de vue, il est plutôt souhaitable, non ?
Alors oui, mais tous ne sont pas de cet avis. Et face au changement de perspective ou de société, certains se méfient et freinent des cas de fer. Dans Courrier International, on se moque d'ailleurs gentiment des changements superflus et absurdes. L'élaboration par exemple d'un traducteur de cris de bébé basé sur une analyse du son par intelligence artificielle ou le développement d'Ubercopter, un Uber de l'hélicoptère accessible pour tous façon de parler, depuis juillet. Et si dans l'Express, on fait mention de la déclaration du patron de Huawei selon lequel la 6G serait accessible sur Terre, dans l'espace et en mer en 2030 et serait aussi 100 fois plus rapide que la 5G, le Point préfère consacrer un entrefilé au Fairphone, le téléphone portable fabriqué avec des matériaux durables qui prouve que changer, c'est parfois aussi refuser le progrès.
Ça fait rêver. Et si on veut changer d'air cette fois, tu as des conseils pour nous ?
Eh bien oui, la presse de ce jeudi ne manque pas d'infos culturelles et nous prouve que les expositions de cet automne font plus que jamais écho à une actualité éminemment chamboulée.
Des précisions ?
Alors oui, à Lima d'abord, on propose une expo sur le site d'Egra en Arabie Saoudite, un site qui abrite des nécropoles préhistoriques et les vestiges d'une ville bâtie par les Nabatéens. Le rapport avec l'actualité, eh bien si cet endroit a été mis en valeur, c'est en fait dans le cadre d'un plan de transformation économique, Vision 2030, du prince héritier MBS. Et aussi parce que l'Agence française pour le développement d'Alula compte bien officieusement s'imposer dans une région autrefois occupée par les Anglais et officiellement mettre en valeur le site et construire musées et hôtels et former la population au métier du tourisme, on a bien peur de ce que ça va donner. Au cinéma ensuite, la Croix salue un film documentaire unique pour Sama. Tournée sous les bombes dans une Alep dévastée, destinée à une enfant, Sama, née dans une ville assiégée, mais aussi à nous tous, spectateurs d'une horreur parfois devenue trop familière, le documentaire de Wad Al-Kateab et Edward Watts est extrait des 500 heures de rush qu'a accumulé la jeune femme syrienne. Une production puissante et incandescente, bouleversante, qui invite à changer les choses à notre échelle.
Merci Marie pour cette revue de presse qui nous donne envie d'aller au cinéma.
Le journal radiophonique amplifié
sur Transistor.
Et tout de suite, on retrouve Adèle pour un édito politique. C'est la petite nouveauté du JRA cette année. Bonjour Adèle.
Bonjour.
Alors, pourquoi plus de 15 jours après les faits, on continuait à parler de l'incendie de Lubrizol ?
Alors, d'abord, c'est un incendie qui a frappé par son ampleur. Le feu s'est déclaré à l'usine Lubrizol dans la nuit du jeudi 26 septembre vers 2h40 et a été maîtrisé seulement 8 heures après le début de l'incendie. On a tous vu l'immense nuage noir qui s'est répandu au-dessus de Rouen et dont les images ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Pourtant, c'est un incendie qui n'a fait aucune victime directe. Contrairement par exemple à la catastrophe de l'usine AZF près de Toulouse en 2001, qui avait fait 31 morts. Alors oui, pourquoi est-ce qu'on continue à parler de cet incendie ? Ce qui est impressionnant, c'est le nombre de personnes touchées par un simple accident de site industriel. En plus de Rouen, 12 municipalités ont été visées par la mesure de confinement, c'est-à-dire 175 000 personnes environ. Et pourtant, ça c'est l'estimation basse. La métropole rouennaise compte près de 500 000 habitants et on peut largement supposer que la fumée ne s'est pas arrêtée aux frontières des 13 communes confinées.
Alors certes, ça fait beaucoup de monde, mais s'il n'y a pas eu de victimes, c'est quoi le problème ?
Bah, d'une part, ce qui a posé problème aux habitants, c'est le manque de transparence de la part des autorités sur la réalité de la catastrophe. Quand les Rouennais voyaient le nuage noir s'épaissir et progresser sur l'ensemble de l'agglomération, le préfet annonçait qu'il n'y avait pas de toxicité aiguë sur les particules visées. Observez. Pourtant, ce sont près de 5000 tonnes de produits chimiques qui ont brûlé et, comme le disent les spécialistes, le plus dangereux dans cet incendie, c'est les effets du cocktail de tous ces produits, dont on est encore aujourd'hui loin d'évaluer les conséquences sur la santé et l'environnement. Cet incendie montre à quel point les autorités elles-mêmes sont démunies, malgré tous les protocoles qui existent, pour gérer ce genre de crise et à quel point l'honnêteté vis-à-vis des populations est loin d'être une priorité. D'ailleurs, le Sénat a créé aujourd'hui une commission d'enquête pour, je cite, « évaluer l'intervention des services de l'État dans la gestion des conséquences environnementales, sanitaires et économiques de l'incendie de l'usine Lubrizol ».
Ok, alors il y a l'air d'avoir eu une mauvaise gestion, mais même s'il y a eu une mauvaise gestion, c'est pas plutôt en amont qu'on devrait regarder du côté des normes, par exemple, qui seraient pas suffisantes ?
Bah, effectivement. Par exemple, la préfecture de Seine-Maritime a donné son feu vert à Lubrizol en janvier, puis en juin, pour deux demandes d'extension de ses capacités de stockage de produits dangereux, sans les soumettre à une évaluation des risques avant. Donc on voit qu'il y a un réel problème. Plus généralement, plusieurs spécialistes constatent une régression de la législation envers les entreprises qui utilisent et produisent des matières toxiques. En 2018, la loi ESSOC est passée, qui permet au préfet d'autoriser une entreprise à modifier le statut de son établissement sans passer par une autorité environnementale indépendante et une étude d'impact, ce qui serait par exemple obligatoire s'il s'était agi d'une création d'entreprise. De même, on peut noter que le nombre d'inspections de sites a chuté. En 2006, 30 000 inspections ont été réalisées, et en 2018, alors que le nombre de sites est resté le même, seulement 18 196 inspections ont été réalisées, c'est-à-dire quasiment la moitié.
Alors d'accord, tu m'as convaincu, il y a un souci dans la baisse d'exigence des normes, mais c'est quand même l'entreprise qui reste responsable de tout ça, non ?
Bah oui, évidemment.
Oui, c'est sûr.
Ce site est classé Seveso, seuil haut, depuis 2009. Avant, il était classé seuil bas. L'usine fabrique et commercialise depuis 1954 des additifs pour enrichir les huiles, les carburants et les peintures industrielles. C'est évident qu'elle requiert une vigilance et des aménagements particuliers. Pourtant, il y avait déjà eu une fuite en 2013 d'un gaz nauséabond et toxique, le mercaptane. Celui-ci avait été senti en région parisienne et jusque dans le sud de l'Angleterre. Ça montre l'ampleur. Et la seule mesure de rétorsion prise avait été une amende de 4000 euros pour Lubrizol. De même, en 2015, 2000 litres d'huile minérale avaient été déversés dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales, occasionnant une pollution environnementale clairement non négligeable. Et le préfet a assuré jeudi que si aujourd'hui l'usine était aux normes, en 2019, elle ne l'a pas toujours été, et en 2017, elle a fait l'objet d'une mise en demeure en raison de 17 manquements, puis que la mise à niveau a été réalisée. Ça montre bien à quel point cet événement n'est pas anodin et s'inscrit dans une suite de manquements à la législation. Pourtant, cette usine appartient au groupe Lubrizol Corporation, la propriété du holding Berkshire Hathaway, elle-même possédée par Warren Buffett, c'est-à-dire le troisième homme le plus riche du monde. Donc on peut pas dire que l'entreprise n'avait pas les moyens financiers d'éviter toute cette catastrophe, contrairement par exemple aux agriculteurs normands qui vont devoir en payer le prix du fait de la pollution de leur culture qu'ils ont pour le moment ordre de ne pas récolter. Et si l'État leur a promis une certaine aide, c'est l'argent public qu'il fournira et clairement pas celui de l'entreprise responsable.
Merci Adèle pour cet éclairage.
Le journal radiophonique amplifié
sur Transistor.
Et tout de suite, c'est l'heure de la notion pourrie qui revient pour cette rentrée.
Journal radiophonique amplifié, la notion pourrie avec Arthur.
Alors Arthur, tu as décidé à la suite du gouvernement de parler d'immigration.
En effet, il s'avère que l'immigration doit être à l'ordre du jour selon Dieu le Père. Une pente inédite pour un gouvernement mal de popularité. Un débat courageux qui n'a jamais été essayé en France. Non, je déconne. Macron laboure actuellement dans des terres qui sont déjà éventrées avec des mottes de terre qui ont été soulevées depuis Stoléru, un ministre de Valéry Giscard d'Estaing, et est dans la droite lignée de Sarkozy ou de Manuel Valls.
Mais ils ne peuvent pas s'appuyer sur des institutions réelles.
Bien sûr que si. Le pire, c'est que La République En Marche, tel un poisson rouge qui fonce dans le bocal et veille la vitre pour ensuite insulter le bocal environ 5 minutes après, a demandé une expertise aux plus grandes institutions qui s'occupent actuellement de l'immigration, à savoir l'INSEE et l'INED. Et ils devraient alors commencer à écouter un de leurs principaux invités, à savoir François Héran, professeur au Collège de France, de la chaire Migration et Société et ancien directeur de l'INED et qui a été convoqué devant le Parlement, devant les députés de La République En Marche. Il devrait alors savoir qu'on immigre actuellement assez peu en France ces temps-ci et que si on vient en France, on vient surtout de l'Europe de l'Est et surtout d'Albanie actuellement, sachant qu'on compte à peu près 20% d'immigrés, de travailleurs immigrés albanais ces derniers temps. Donc ce qui veut dire qu'en plus en termes de flux, on baisse particulièrement comparé aux dernières années. Les années 2000-2010 étaient beaucoup plus importantes en termes d'immigration directe. Nous sommes actuellement dans une baisse des flux, voire même un arrêt total venant de certaines régions du monde, à savoir l'Amérique latine ou l'Afrique du Sud. Et en termes de stock relatif, c'est assez minable. La République En Marche justifie la lancée du débat sur l'immigration en disant que nous avons 115 000 demandes d'asile, soit presque autant que l'Allemagne actuellement, qui est à peu près à 136 000. Mais déjà, nous arrivons à la fin de la bataille, à savoir au moment où les immigrés et où les réfugiés sont actuellement parqués dans les camps de Turquie et au moment où la majorité de la population immigrée a été surtout envoyée à la fois en Allemagne, en Suède, mais aussi et actuellement en Italie ou en Grèce. Et surtout, si on s'interroge sur les moyens de calcul, l'immigration et le stock d'immigrés sont en fin de compte extrêmement faibles comparé à ce qu'on appelle les critères de Dublin, qui veut dire tout simplement qu'on augmente et qu'il faut calculer la proportion de si un pays joue sa part selon s'il accepte un certain nombre d'immigrés par rapport à la taille de sa population.
Et pourtant, La République En Marche parle de supprimer l'aide médicale d'État.
Eh oui, et pour moi ça révèle surtout l'incompétence de La République En Marche sur le sujet. Parce que l'aide médicale d'État, qui veut dire c'est cette aide qui est utilisée principalement pour pouvoir soigner des immigrés qui sont en situation de santé particulièrement grave. Eh bien c'est quelque chose qui existe tout autant pour la santé publique de la France que tout simplement pour des raisons budgétaires. Parce que le traitement, ce qu'on pourrait dire normal d'un immigré qui irait tout simplement à l'hôpital public s'il est gravement malade, eh bien ce serait beaucoup plus cher. Il se retrouverait bloqué et commencerait à bloquer tout simplement les autres personnes qui chercheraient à aller aux urgences normalement. Et en plus il se retrouvait bizarrement invisibilisé. Parce que malgré les clandestins, le marché noir et la pauvreté qui invisibilise certaines activités de quelques travailleurs immigrés, il faut avoir en tête qu'il n'y a rien de plus officiel et régulé que le statut des immigrés et le marché du travail en France. C'est un choix alors, mais ça alors, c'est surtout un choix de laisser les entreprises choisir librement des travailleurs à exploiter pour réduire les coûts, créant des pièces alors pour construire un mythe tenace d'un marché anarchique de travailleurs immigrés invisibles qui mugissent entre nos immeubles. immeubles et que seuls les politiques sauraient entendre.
Merci Arthur.
Il giornale radiofonico dell'amplificazione.
Sur Transistor.
Et tout de suite, on découvre une toute nouvelle chronique cette année avec Clément qui va nous parler Italie tous les 15 jours dans le journal radiophonique Amplifié.
Bonsoir Mathilde. Alors Arthur nous a parlé dans les brèves d'Italie 2, ce centre commercial occupé par des militants écologistes. Je vais donc vous parler d'Italie et je vous emmène immédiatement à Rome, dans la Rome de 2009, puisque cette année-là, un jeune géomètre de 31 ans, Stefano Cucchi, est mort en prison après avoir été arrêté une semaine avant en possession de haschich. Que s'est-il passé ? Alors, l'affaire Cucchi a défrayé la chronique, et ce depuis une dizaine d'années, puisque, comme bon nombre d'affaires qui impliquent les dérives de l'institution policière et carcérale, nombre de choses ont été passées sous silence par les hiérarchies, par la police, par le gouvernement. En fait, Cucchi était en parfaite santé lors de son interpellation, et une semaine après, au moment de sa mort, au moment de son autopsie, il pesait 37 kilos et son corps était couvert de contusions. Bien entendu, le personnel pénitentiaire et les carabiniers ont nié avoir exercé de la violence contre leurs victimes.
Mais alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ?
Donc l'enquête a commencé par s'orienter sur la piste de la négligence des médecins qui n'auraient pas soigné à temps Cucchi au cours de sa brève incarcération. Quant aux agents de la police pénitentiaire, ils ont bien déclaré avoir poussé à terre le détenu sans que cela ne soit la cause de la mort. La première piste a donc été celle de l'homicide involontaire, mais ce qui a vraiment marqué le tournant de l'affaire et le début du scandale, c'est la publication des photos de l'autopsie, quelques jours après le décès de Stefano, par un média. Et ces photos qui font froid dans le dos ont bien montré que le jeune homme n'est pas seulement mort suite à une négligence de la police ou des médecins, il a été violemment battu par les agents de la police pénitentiaire.
Qu'est-ce que ça m'a fait, quoi ?
E qua che c'è di bello?
Siamo carabinieri, dobbiamo fare una perquisizione.
L'hanno arrestato in piena notte.
Quando Stefano ritorna, deve dirci la verità e basta.
Alors, ces extraits sont ceux d'un film qui a été inspiré de l'histoire de Stefano, puisque depuis 10 ans a eu lieu un véritable marathon judiciaire avec 3 procès, des appels, des recours en cassation et une véritable bataille de l'opinion publique. Ce film, dont vous avez entendu des extraits de la bande-annonce, a remis au cœur de l'actualité le scandale, tandis que les procès sont toujours en cours. Le premier procès avait visé les médecins et les gardiens de prison pour homicide involontaire. Plusieurs fois cassé, il n'a pas donné lieu à un résultat satisfaisant pour les proches de la victime. Dans un deuxième procès, les 5 agents de la police pénitentiaire sont accusés d'homicide préter intentionnel, ce qui signifie qu'ils n'avaient pas l'intention de donner la mort, mais que les conséquences de leur acte ont été plus graves que leur intention initiale, qui vraisemblablement était seulement de faire du mal à Stefano.
Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle encore de l'affaire Cucchi ?
Eh bien c'est justement parce que la semaine dernière, le 3 octobre, dans ce deuxième procès, le procureur a requis 18 ans de prison contre les 2 policiers auteurs des coups. La sentence sera rendue dans quelques semaines. La réquisition a été accueillie comme un véritable soulagement pour la famille de la victime, pas seulement parce qu'elle représente une justice rendue, mais aussi parce qu'elle symbolise pour la première fois la reconnaissance de la vérité de la part de la justice.
Ed oggi è il momento che non avrei mai immaginato che sarebbe arrivato. È un riscatto e nel momento stesso in cui prima ancora della giustizia si riconosce la verità, si sta dicendo che quella vita valeva qualcosa.
Et donc ça, c'est la sœur de la victime qui dit que pour la première fois, elle a eu l'impression qu'on reconnaissait la valeur de la vie de son frère. Il faudra toutefois attendre la conclusion du 3e procès pour que la vérité pleine et entière fasse surface. L'affaire a en effet un volet aussi politique, puisque la direction générale des carabiniers italiens, c'est-à-dire l'équivalent de la gendarmerie, est accusée d'avoir caché de nombreux éléments depuis le début des enquêtes. En novembre seront donc jugés plusieurs responsables, dont un général de brigade, pour faux usage de faux, non dénonciation de crime. C'est un aspect de l'enquête qui avait été évoqué par le procureur au cours des audiences de la semaine dernière.
Bisogna dire che nella vicenda Cucchi i depistaggi hanno toccato picchi da film dell'orrore. Ha riguardato anche un ministro che è andato in...
Et jusqu'au niveau du gouvernement qui aurait menti au Sénat.
Alors, est-ce à dire que lorsque l'institution policière est concernée, la vérité met toujours du temps à éclater ?
Faux, dissimulation de preuves, complicité passive des hiérarchies, l'affaire Cook n'est pas sans évoquer d'autres cas similaires en Italie comme en France. Si le procureur qui a travaillé sur l'affaire a été tenace et a permis le dévoilement de la vérité, il est rare que les choses se passent comme ça. Alors faut-il parler de bavure ou de simples conséquences d'un fonctionnement d'une institution hors de contrôle ? La crédibilité de l'institution policière, pour celles et ceux qui y croient encore, est en jeu, et cela entraîne une réaction forte des milieux qu'elle défend. C'est donc par des combats acharnés, comme celui mené par la famille, que la vérité a pu être dévoilée. Dans ce cas encore, la lutte a payé, et le procès Cook, qui est une bonne nouvelle qui nous vient d'Italie, puisqu'un crime policier n'est pas resté impuné, il faut le souligner, car c'est assez rare.
Merci pour cette première chronique italienne.
Vous êtes à l'écoute du journal radiophonique amplifié sur Transistor, radio conçue comme son propre fondement, jusqu'à 20h30.
Et puisque tu nous as parlé impunité policière, je vais vous parler un tout petit peu de violence policière parce que je vous apprends rien, on en parle aussi en France, mais en fait, on en parle aussi au sein du mouvement écologiste français.
Journal radiophonique amplifié, le billet écolo avec Mathilde.
Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la militante Juliette Rousseau qui a évoqué les violences policières et qu'est-ce qu'il fallait en penser au sein du mouvement pour le climat. Alors Juliette Rousseau, elle est apparue ces derniers temps dans les pages de Politis et Reporters, notamment parce qu'elle a publié en novembre 2018 un livre qui s'appelle « Lutter ensemble ». Elle a travaillé pour ATTAC, elle a été coordinatrice de la coalition Climat 21, puis elle a vécu pendant 2 ans à Notre-Dame-des-Landes pour participer à une lutte plus ancrée. Aujourd'hui, elle revient sur son expérience et grâce à cela, elle nous parle un peu de qu'est-ce qu'il faut penser du mouvement climat. Alors son mot d'ordre, c'est que les écolos, les antiracistes et les féministes doivent se liguer tous ensemble contre le système. Elle raconte que le mouvement des Gilets jaunes lui a appris une seule chose, que la révolution ne viendrait sûrement pas de ceux qui pensent la politique et de ceux qui sont dans un rapport de domination. En clair, la révolution, elle ne viendra pas de nous. Elle viendra de ceux à qui elle apportera un intérêt immédiat à ce qu'elle arrive. Parce que, rappelle-t-elle, la mobilisation est générée par l'expérience du quotidien en tout premier. C'est précisément pour cette raison que le mouvement climat doit s'allier et défendre d'autres causes féministes, anticoloniales, anti-violences policières. Dans une interview accordée à Reporter, elle raconte qu'un jour, une de ses amies militantes dans un collectif contre les violences policières, constituée autour d'une famille de victimes, lui a dit « Vous les blancs, passez votre temps à dire que vous allez mourir un jour. Ça me fait rigoler, nous c'est aujourd'hui qu'on meurt. »
Et alors Mathilde, quelle solution Juliette Rousseau propose-t-elle pour que les différentes luttes s'allient les unes aux autres ?
Alors selon elle, ces différentes causes ont une chose en commun, c'est la lutte contre un système d'oppression au sein duquel se nouent différents rapports de domination. Et ces rapports de domination sont également présents au sein du mouvement écologiste, comme dans le reste de la société. La première étape, selon Juliette Rousseau, c'est donc de reconnaître ces rapports de domination, comme avec le féminisme et l'antiracisme qui existent au sein des luttes écologistes. Ensuite, elle insiste sur la nécessité de la solidarité, que ce soit en termes de visibilité, comme par exemple rendre une lutte voisine plus visible en communiquant à son propos ou en affichant un soutien inconditionnel, ou même en des termes plus matériels, par exemple une lutte qui rassemble des militants plus privilégiés peut participer à financer une autre lutte. Et enfin, la dernière étape serait de lier des complicités interpersonnelles, selon ses mots, pour organiser des actions communes et surtout accepter de prendre des risques ensemble.
Le journal radiophonique amplifié sur Transistor.
Et comme il n'y a pas que les militants qui s'intéressent aux aléas climatiques, il y a aussi les sportifs. On passe tout de suite à la chronique en sueur avec Victor.
Un entraîneur, ça doit être entraînant.
Oui, mais là, ça pique.
Respectez ! Pas peur de prendre ! Pas peur de prendre !
Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud !
Cible !
L'année dernière, on n'avait pas d'opium, je te rappelle.
Quel scandale cet arbitrage, c'est invraisemblable.
Et commençons tout d'abord par le clap de fin des championnats du monde d'athlétisme qui se sont tenus à Doha au Qatar. Le bilan est extrêmement maigre pour nos athlètes français avec seulement 2 médailles.
le bronze pour Pascal Martineau-Lagarde sur 110 mètres haies et l'argent pour Quentin Bigot au lancer de marteau. En revanche, aucun de nos champions du monde en titre n'a pu défendre son titre. Pierre-Ambroise Boss a tout d'abord été éliminé dès les demi-finales du 800 mètres, puis Kevin Mayer a abandonné, s'est blessé même lors de son décathlon, et enfin Johan Diniz a lui abandonné lors du 50 km marche, à cause des conditions dantesques dans lesquelles se déroulait cette épreuve. Un départ donné aux alentours de minuit, malgré une température de 35 degrés et un taux d'humidité dépassant les 80%, voilà ce qui a été imposé à tous les athlètes concourant dans les épreuves hors stade, avec un beau record pour le marathon féminin où le taux d'abandon était supérieur à 40%.
Et à l'intérieur du stade alors, il faisait comment ?
Eh bien c'est très simple, quelques 3200 bouches d'aération étaient utilisées pour maintenir l'air ambiant aux alentours de 25 degrés. Un cadre qui aura tout de même permis à la quatrachiste américaine Dalila Muhammad de battre le record du monde du 400 mètres haies en 52 secondes et 12 centièmes. Seule performance vraiment notable de ces championnats où la prise en compte de l'impact environnemental et de la santé des athlètes n'auront eu d'égal que l'absence totale de spectateurs. En clair, avant la Coupe du Monde de football de 2022, qui aura lieu non pas dans un seul, mais dans une dizaine de stades, autant vous dire qu'on est rassuré.
Alors, heureusement, tout ne semble pas être perdu pour nos sportifs tricolores.
Et en effet, Mathilde, quand on sait qu'on ne peut pas gagner, autant tout faire pour ne pas perdre. Et c'est exactement ce qui se passe à la Coupe du Monde de rugby qui se déroule actuellement au Japon, et ce, grâce à Agibis. Alors non, ce n'est pas le nom d'un obscur fromage grec que nos rugbymen français auraient subtilement glissé dans l'assiette de leurs adversaires de toujours, les Anglais, en espérant secrètement une indigestion, mais bien le nom du plus puissant typhon de l'année qui se dirige en ce moment vers les côtes nippones. La dangerosité potentielle de celui-ci a poussé la Fédération internationale de rugby à annuler donc le match France-Angleterre qui aurait dû se tenir ce samedi ainsi que Nouvelle-Zélande-Italie. En revanche, pour des raisons d'équité sportive, le match opposant le Japon à l'Écosse sera lui peut-être reporté. En effet, en cas de victoire, le 15 du Chardon doublerait son adversaire du jour et se qualifierait alors pour les quarts de finale. Un très beau geste de la part de l'organisation japonaise qui met sa qualification en jeu. C'est à demander si les Anglais auraient fait de même. Enfin, dans cette année pré-olympique, Transistor vous propose de découvrir toutes les deux semaines sa suggestion d'un nouveau sport à proposer au comité international olympique, cela va de soi. Cette semaine au programme, l'équitasket. Alors l'équitasket est un sport se pratiquant à deux équipes de 5x2, donc 5 joueurs et leurs 5 chevaux. Le principe est simple, il s'agit pour chaque joueur d'enfourcher son destrier ainsi qu'une botte de foin, laquelle doit être projetée dans un panier situé à 4 mètres de hauteur. Un nombre de points différent est bien évidemment attribué en fonction de la distance du joueur au panier, donc entre 2 et 3, tout en sachant qu'un total de 4 points pourra être accordé en cas de panier marqué en effectuant un dunk lorsque sa monture se cabre. Donc pour des raisons de sécurité, il est bien évidemment interdit de tenter de désarçonner son adversaire avec sa fourche. Toutefois, pour les parents qui nous écoutent et qui demeurent inquiets, nous rappelons que des fourches en mousse sont disponibles dans toutes les grandes enseignes de sport, le foin étant même parfois offert, ce qui n'est pas rien.
Ça donne envie. Merci Victor.
Le journal radiophonique amplifié sur Transistor.
Et tout de suite, après le sport, le réconfort. Et le réconfort, c'est aujourd'hui avec la science, avec Phileas qui va nous parler des prix Nobel.
Pour revenir aux origines du massif hercynien, il faut faire un bond de
90% of blue and red light is absorbed in the upper one-fifth of a spinach leaf.
Le paramètre qui va caractériser l'ordre du système va être discontinu à la fin.
Alors effectivement, Victor vous a parlé de différentes médailles en discipline sportive. Moi, je vais vous parler des médailles qui ont été décernées à certains scientifiques parce qu'ils ont apporté le plus grand bénéfice à l'humanité, ou du moins, c'est la formule officielle de la distinction du prix Nobel, et ce, depuis 1901. Alors, Alfred Nobel est la personne à l'origine de ces différents prix, et il a lui-même contribué à ce très grand bénéfice, puisqu'il a inventé la dynamite. Alors, ils sont attribués selon 5 catégories, la physique, la chimie, la médecine ou physiologie, la littérature ou encore la paix. Cette année encore, les distinctions n'auront pas été volées, puisque en chimie, par exemple, le prix a été attribué à John Goodenough, Stanley Whittingham et Akira Yoshino, dont les travaux ont mené à la fabrication de la batterie au lithium en 1985, et que tout le monde promène aujourd'hui, puisqu'elle alimente téléphone, ordinateur, voiture électrique et à peu près tout autre appareil électronique portable ne fonctionnant pas sur pile. Enfin, elle sert de sujet de TD à tout prof de physique qui se respecte. Pour la petite anecdote, John Goodenough étant âgé de 97 ans, il devient alors le doyen des lauréats du prix Nobel, car si un jour vous souhaitez devenir lauréat, deux voies aisées s'offrent à vous. Vous pouvez apporter le plus grand bénéfice pour l'humanité, comme le dit la formule, en étant jeune, ou alors vous devez vivre longtemps, ou encore les deux.
Et donc la cérémonie des Nobel, elle ne récompense pas les personnes décédées ?
Alors en effet, les nombreux scientifiques méritants qui ont eu la riche idée de décéder avant que le rapport ne soit arrivé aux oreilles du jury des Nobel n'ont pas été décorés. On peut par exemple citer Rosalind Franklin qui a pris le premier cliché de la molécule d'ADN. Le prix a donc été décerné aux deux autres scientifiques en 1962 pour avoir élucidé sa structure. Elle en revanche reste souvent oubliée dans l'histoire. En médecine et physiologie, par exemple, le prix a été décerné à William Kaelin, Greg Semenza et Peter Radcliffe pour leur découverte sur la façon dont les cellules sentent et s'adaptent à la disponibilité de l'oxygène. Ils ont ainsi détaillé les mécanismes moléculaires expliquant la réaction d'une cellule en cas de manque d'oxygène, par exemple en altitude ou lors d'un effort. Ces mécanismes sont un savant mélange de réactions enzymatiques et autres activations ou inactivations de certains gènes. Leurs travaux permettent ainsi d'ouvrir la voie à la lutte contre le cancer, les anémies ou toute autre forme de maladie rare. En physique, le prix a été attribué à James Peebles, Michael Mayor et Didier Queloz pour leurs travaux sur la connaissance de l'univers. Le premier ayant largement contribué au modèle du Big Bang et de la formation des premiers éléments cosmologiques, les deux autres ayant découvert et confirmé l'existence de la première exoplanète nommée Dimidium, située à environ 51 années-lumière, soit 480 000 milliards de kilomètres ou encore 460 milliards de terrains de football. En parallèle, des prix Nobel sont décernés plus ou moins officiellement, on les appelle les prix Ig Nobel, qui sont beaucoup moins connus, et ces prix récompensent réalisations qui font d'abord sourire puis réfléchir, comme le dit leur formule officielle à eux. En chimie, le prix récompense Shigeru Watanabe et son équipe pour avoir estimé le volume de salive moyen produit chaque jour par un enfant de 5 ans.
Et alors c'est génial ces Ig Nobel, il est de combien ce volume par exemple ?
Alors pour un enfant de 5 ans, le volume a été estimé à 500 ml, c'est-à-dire une petite bouteille d'eau, ce qui n'est pas négligeable. En médecine, il est attribué à Silvano Gallus pour avoir démontré que la consommation de pizza protège contre les maladies ainsi que la mort, toutefois à condition que ces pizzas soient consommées et fabriquées en Italie. En biologie, Lin Junkong.
Une raison de plus pour écouter la chronique italienne.
Tout à fait. En biologie, Lin Junkong est récompensé pour avoir découvert que les cafards morts réagissent à un champ magnétique différemment des cafards vivants. Voilà, cette découverte, moi, ne me fait pas trop réfléchir, elle me fait plus sourire, mais c'est certainement très important. Alors, la liste des prix Ig Nobel est longue, on peut citer entre autres les récompenses pour la machine à changer les couches, les travaux pour l'asymétrie de la température du scrotum des facteurs, ou encore les travaux expliquant pourquoi les wombats font des crottes cubiques.
C'est très intriguant tout ça. Et le mot de la fin, c'est pour qui ?
Alors le mot de la fin, il est pour le russe Andrew Game, si ça se prononce comme ça, je ne sais pas. Alors il est à la fois détenteur d'un Ig Nobel de physique pour avoir fait léviter une grenouille avec des aimants, et il est également détenteur d'un vrai prix Nobel de physique pour ses travaux sur le graphène, et c'est donc la seule personne à cumuler aujourd'hui ces deux prix.
Ah, c'est lui le vrai alors. Merci Phileas.
Le journal radiophonique amplifié
sur Transistor.
Et Arthur n'est pas là ce soir, alors c'est Clément qui va nous lire sa chronique sur le chemin de l'école.
Journal radiophonique amplifié sur le chemin de l'école avec Arthur.
Et donc Clément, qui va faire la voix d'Arthur, va nous parler des écoles alternatives.
En effet, puisque à la rentrée 2018, près de 75 000 élèves étaient scolarisés dans ces 1462 établissements hors contrat, proposant des pédagogies différentes, dites alternatives, largement inspirées par les penseurs du mouvement de l'éducation nouvelle, Maria Montessori, Rudolf Steiner, Célestin et Élise Freinet, mais aussi par des thématiques plus contemporaines, éveil à l'écologie, éveil à la citoyenneté. Moins de 100 000 élèves, c'est donc une goutte d'eau par rapport aux 12,3 millions d'enfants fréquentant les écoles publiques ou privées sous contrat. Certes, mais chaque année, ces écoles différentes sont de plus en plus nombreuses à ouvrir leurs portes et leur succès ne cesse donc de s'accroître.
Et pourquoi ces écoles, elles attirent autant de monde ?
Les raisons d'un tel attrait s'expliquent en partie par de grandes évolutions sociétales propres à notre époque. Dans le monde occidental, l'accent est fortement mis sur la réalisation de soi, le développement personnel, l'épanouissement de l'individu. Et cela non seulement pour les adultes mais aussi pour les enfants. Il est donc logique que les parents soient en quête d'écoles soucieuses de ces dimensions-là. C'est le cas des écoles alternatives qui, toutes quelles que soient leurs spécificités, se préoccupent de l'épanouissement de l'enfant. Ça, c'est ce que nous explique Marie-Laure Viau, docteur en sciences de l'éducation. Toutes ces écoles partagent donc la même conviction. Ce n'est pas à l'enfant de s'adapter à l'école, mais à l'école de s'adapter à l'enfant. Beaucoup de parents ont le sentiment, en effet, que l'école publique est une machine à normaliser, à formater les élèves, qu'elle ne prend pas assez en compte la singularité de chacun. En se tournant vers les écoles alternatives, ils espèrent une prise en compte individualisée de leur enfant, permettant la pleine expression de ses aspirations particulières. L'école doit apporter une réponse à ses besoins particuliers s'il en a, et particulièrement pour les enfants 10 ou précoces. Alors, Philippe Mérieux, professeur émérite en sciences de l'éducation, écrit « Les parents d'aujourd'hui ont compris que faire absolument entrer leur enfant dans la norme scolaire ne lui garantira ni le bonheur ni la réussite. Il préfère lui offrir un contexte scolaire alternatif qui lui permettra de développer tout son potentiel, et donc de partir avec de bonnes bases pour construire son avenir. Mais les parents faisant le choix d'une école alternative ne sont pas tous de doux rêveurs seulement préoccupés par l'épanouissement de leur enfant. Beaucoup d'entre eux visent tout autant son succès scolaire. En France, les écoles alternatives uniquement fondées sur la créativité de l'enfant et sa liberté rencontrent assez peu de succès, beaucoup moins qu'aux États-Unis par exemple. Ce qui fonctionne le mieux chez nous, ce sont les écoles Montessori et les écoles plurielles, et cela parce qu'elles promettent à la fois l'épanouissement et la réussite précoce dans les apprentissages fondamentaux, parfois aussi dans l'apprentissage d'une langue étrangère, avance Marie-Laure Viau. Les parents intériorisent très tôt l'importance de la réussite scolaire pour la future vie sociale et professionnelle de leur enfant. Ils ne font plus confiance à l'école publique pour le tirer vers le haut, et sont conscients que sa naissance dans un milieu favorisé ne lui garantira pas non plus la réussite dans un monde ultra compétitif, souligne François Dubé, sociologue et directeur des recherches à l'EHESS.
Et qu'en est-il de la relation alors entre les parents et cette école alternative ?
Mais le succès des écoles alternatives repose aussi sans aucun doute sur la place que la plupart d'entre elles savent accorder aux parents. Dans des écoles freinées par exemple, les parents peuvent venir animer des ateliers dans la classe, ils sont les bienvenus. Ils ne sont pas considérés comme des intrus, décrit de nouveau Marie-Laure Viau. C'est une impression qu'ils ont parfois malheureusement au sein de l'éducation nationale. Historiquement, l'école s'est construite contre la famille, selon Jules Ferry. L'école devait soustraire les enfants aux mauvaises influences familiales, patois, superstition, alcoolisme, et leur apporter la connaissance et le progrès, poursuit Marie-Laure Viau. Or, beaucoup de parents n'acceptent plus d'être ainsi exclus et tenus à distance de ce qui se passe à l'école. On assiste actuellement à un mouvement de réappropriation par les familles de l'instruction qu'elles avaient traditionnellement déléguée à l'État. C'est cela que j'appelle le familialisme, la volonté de contrôler l'école pour qu'elle soit homogène idéologiquement, sociologiquement, pédagogiquement, analyse Philippe Mérieux. Les écoles alternatives servent aussi à échapper à la mixité sociale. La possibilité même d'apprendre à faire société ensemble est menacée par cet état d'esprit. Donc ce type d'école alternative, qui accueille souvent de petits effectifs, permet aussi des relations parents-enseignants très directes. Les parents n'en peuvent plus de ces mastodontes opaques et inaccessibles. Dans une école alternative, il n'y a pas d'interminable procédure à suivre. La réponse est quasi immédiate, ajoute Marie-Laure Viau. Les parents payent, souvent très cher, et se sentent autorisés à avoir des exigences et à obtenir satisfaction. Dans ces écoles privées hors contrat, encore plus qu'ailleurs, les parents adoptent des comportements d'usagers. C'est le signe de la transformation avancée de l'école en service. Lorsqu'on n'est pas content du service rendu par une école, on va en voir une autre, regrette Philippe Mérieux. Mais si l'éducation nationale est victime de ces comportements d'usagers, ce n'est probablement pas sans raison. L'institution souffre d'un double blocage susceptible d'inciter les parents à se détourner d'elle. D'une part, elle ne prend pas assez en compte leur désir légitime d'entretenir avec elle une relation constructive autour des enjeux pédagogiques. D'autre part, elle nourrit une méfiance quasi viscérale vis-à-vis des innovations pédagogiques, tout particulièrement vis-à-vis d'une pratique très développée dans nombre d'écoles alternatives et qui conditionne le développement des enfants. Les classes multi-âges où les enfants travaillent ensemble, s'entraident, sont les tuteurs les uns des autres. Et c'est un tel immobilisme qui peut en partie expliquer le désamour dont l'école, dont l'éducation nationale souffre et par ricochet, le succès des écoles qui font autrement.
Merci Clément et merci Arthur.
Le journal radiophonique amplifié sur Transistor.
Et pour bien terminer ce journal radiophonique amplifié, on va terminer avec une musicienne. Cette année, c'est Martin et Nathan, et ce soir surtout Martin, qui va la gérer. Alors tu vas nous parler des sorties de la semaine.
Bonsoir à tous, et je vais commencer cette nouvelle musicienne en vous demandant, à vous, auditeurs, de garder une minute de silence ce soir. Vous savez tous pourquoi. Et oui, comme c'est la mode en ce moment, le Troxon, salle de concert rock au centre de Lyon, a brûlé lui aussi, nous laissant, nous, en quelque sorte, Lyonnais orphelins. Mais bon, à la radio, une minute de silence, c'est long, on n'a pas le temps, et c'est l'heure de la musicienne.
Où je vais dire des trucs simples.
Et donc je vais commencer par vous parler d'un petit festival qui se passe pas loin d'ici, à la Doie. Il s'appelle un doigt de jazz parce que, eh oui, les scientifiques ont, comme nous, beaucoup d'humour. Un doigt écrit D-O-U-A, comme le nom du campus des scientifiques pour ceux qui ne connaissent pas. Magnifique campus, au style stalinien, comme on aime. Et donc, un doigt de jazz, comme son nom l'indique, c'est un festival de jazz, très varié et à prix bas. Il existe depuis 26 ans et tente de réconcilier jazz et étudiants, ce qui n'est pas toujours très simple. Un doigt de jazz, c'est une semaine et demie de concert, et c'est surtout ça. Et ça, c'était Horny Biker de l'album du Sacre du Tympan composé par Fred Palem. Fred Palem qui sera à Un Doigt de Jazz demain soir. Et grâce auquel Fred Palem et Zimmerman ont remporté le premier prix du concours national de jazz de la Défense en 2004. Fred Palem fait de la guitare, basse, de la composition et des arrangements. Daniel Zimmerman, du trombone. De notable, on peut remarquer que Daniel Zimmerman a créé les arrangements de Claude Nougaro, Jean-Louis Aubert, joue avec Manu Dibongo, Jacques Higelin, Patrick Bruel, Moran, Vincent Perani et bien d'autres artistes. Si les quelques minutes où Fred Palem et Zimmerman, les deux artistes, ont joué ensemble à la radio en 2012 ne vous ont pas suffi, je vous donne rendez-vous à ce concert qui promet d'être magnifique et unique.
Et les infos, Martin ?
La date, c'est toute la semaine pour le festival, demain 19h pour Fred Palem et Daniel Zimmerman. Le lieu, c'est la MLIS, Maison de l'Image et du Son de Villeurbanne, et le prix, c'est gratuit. Plus minimaliste, tout dans le beat, Schwefelgelb, qui vient pour la quatrième édition du Rébellion du Nin Kazikao. Pour une soirée de minuit à 6h du matin, pour le week-end, c'est là-bas qu'il faut être. Depuis 2004, Eddie Nix et Sid Lamar constituent ce groupe techno au nom absolument imprononçable. Le duo définit sa musique comme du techno body music. Je ne savais pas ce que c'était, alors j'ai fait mes recherches. Musique mêlant des éléments de musique post-industrielle et synth-punk, sorte de techno-punk. Si ça ne vous avance pas, je vous invite à aller écouter les musiques de plus près.
Ou même à aller à leur concert, en fait.
Tout à fait. Originaires de Berlin, ils seront pour cette soirée accompagnés de H880 et Moonsinger.
Et les infos ?
La date, c'est le samedi à partir de 23h55. Le lieu, c'est le Nin Kazikao de Gerland. Et le prix, c'est 14,50€. Et enfin, on finit avec une note un peu plus brutale. Arthur envoie Destroyer 666. aussi doux que le nom du groupe le laissait présager. C'était Wildfire de l'album éponyme de Destroyer 666, album sorti en 2016. Destroyer 666 est un groupe de death metal qui a déjà pas mal d'expérience, conçu comme un projet solo par le guitariste et chanteur australien Kaka Valrost, encore un nom imprononçable, en 1994. Son premier album, Unchain the Wolves, sorti en 1997, et depuis le début des années 2000, ils ont quitté leur chère Australie pour venir s'installer en Europe. Quelle idée! Ils passent donc au CCO avec Dead Congregation, du death metal, et deux autres groupes invités que je ne connais pas, Nocturnal Graves, qui est apparemment du black thrash metal australien aussi, et Inconsensus Lux Lucis, du black metal du Royaume-Uni. La date, c'est le 27 octobre, à partir de 19h. Le lieu, c'est le centre œcuménique de Villeurbanne. Et le prix, c'est 26€ en pré-vente.
Le journal radiophonique amplifié.
Sur Transistor.
Merci. Merci Martin pour cette chronique musicienne. J'espère que ça vous a donné des envies de sortie. C'était bien le journal radiophonique amplifié sur Transistor qui fait son retour sur les ondes cette année. Cette semaine, c'était avec la toute nouvelle équipe. Il y avait donc Nicolas Sendé, Marie Douniac, Rémi Cerda, Arthur Kramer, Adèle Domas, Clément Lui, Victor Andrade, Martin Gauthier et Phileas Larcher. En régie, on dit un grand merci à Félix Barenti et à Arthur Kramer. Le JRA est une émission coordonnée par Mathilde Picard avec la bénédiction de Rémi Cerda. Et la prochaine fois, on se retrouve en direct après les vacances de la Toussaint.